Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Sidoudia, bonjour. Amnesty International a dénoncé mardi la répression croissante des voix dissidentes par les autorités togolaises à la suite de l'arrestation la semaine dernière de deux représentants d'un important mouvement de l'opposition, Brigitte Adja Magbo Johnson et Gérard Diossou, tous deux membres de la dynamique Monseigneur Pozzo, sont accusés de préparer un plan de déstabilisation des institutions de la République, selon le procureur de la République. L'arrestation des deux opposants semble être strictement liée à l'appel à manifestation, a estimé Amnesty International, qui a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle des deux opposants. Des peines de 2 ans de prison ferme ont été requises mardi au Sénégal à l'encontre de 3 hommes accusés d'avoir fait embarquer leur fils dans une pirogue en partance pour l'Europe, dont un est mort en mer, a-t-on appris auprès de leur avocat. Le sort de Doudou, le surnom du jeune de 15 ans qui avait embarqué mi-octobre, a particulièrement retenu l'attention au moment où l'émigration clandestine et les pertes en vies humaines qu'elle cause suscitent un vif émoi au Sénégal. En République démocratique du Congo, nouvelle crise suite à la réélection contestée d'Albert Yuma, un proche de l'ancien président Joseph Kabila, à la tête du syndicat des patrons. Eddy Issango nous en parlera. En Éthiopie, les communications ont été partiellement rétablies au Tigré après 4 semaines de conflits armés, mais l'ONU réclame désormais un accès urgent à cette région du Nord qui a désespérément besoin d'aide humanitaire. Le Tigré est privé de tout approvisionnement depuis le 4 novembre, lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale à l'assaut des forces du TPLF, parti qui dirige la région, et défié son autorité depuis des mois. M. Abiy a clamé victoire samedi après la prise annoncée de la capitale régionale Mekele par les troupes gouvernementales. Mais le président du Tigré, Levretsion Gebremichael, a promis de poursuivre le combat contre ce qu'il a appelé les envahisseurs. Coronavirus, les professionnels du secteur de la santé et les résidents des maisons de retraite devraient être prioritaires pour la vaccination contre le COVID-19 aux États-Unis, a recommandé mardi un comité consultatif. Par ailleurs, le président élu Joe Biden a promis mardi d'aider tous les Américains à se remettre de la crise économique que sa future secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a qualifié de tragédie américaine. Nous y reviendrons avec Abdourahman Dia. Les espoirs d'une parade contre le COVID-19 se précisent. La France envisage une campagne de vaccination pour le grand public au printemps et le régulateur européen s'est engagé à examiner des demandes d'autorisation pour 2 vaccins dans les semaines à venir. Sur le plan politique, ici à Washington, le ministre américain de la Justice, Bill Barr, a déclaré mardi ne pas avoir constaté de fraude suffisante pour invalider la victoire de M. Biden à la présidentielle, et ce, contrairement aux affirmations du président Donald Trump. Dans un communiqué, les avocats de M. Trump ont cherché à minimiser la déclaration de ce fidèle du président américain en disant qu'il n'y a eu aucun semblant d'enquête au ministère de la Justice. Une scène d'horreur, un homme ivre et souffrant de troubles psychiatriques a fauché mardi des passants dans une zone piétonne dans le sud-ouest de l'Allemagne, tuant 5 personnes dont un bébé de 9 mois. Avant d'être interpellé. Un grand bond pour le programme spatial chinois, la sonde s'est posée avec succès mardi sur la Lune, une mission cruciale en vue d'envoyer des astronautes sur l'astre lunaire d'ici 2030. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC.
la suite de nos informations. Et encore une autre crise en République démocratique du Congo, la reconduction de l'homme d'affaires Albert Yuma à la tête du syndicat des patrons a provoqué un bras de fer avec la justice administrative sur fond de tensions politiques au sommet de l'État. Les explications d'Eddie Isango.
Albert Yuma, 65 ans, proche de l'ancien président Joseph Kabila, a été réélu jeudi pour un sixième mandat de 3 ans à la tête de la Fédération des entreprises du Congo. Il était seul en lice car 2 autres candidatures n'avaient pas été retenues. Le lendemain, c'est le coup de théâtre. La réélection du patron des patrons est annulée par les conseils d'État, saisis par Dieudonné Kassimbo, l'un des candidats écartés. Ce lundi, la FEC refuse de se plier à la décision du Conseil d'État. L'époque des candidats uniques étant révolue, les responsables de la FEC doivent se soumettre à la décision judiciaire, a déclaré Jonas Tchombela de l'organisation Forum pour la bonne gouvernance. M. Yuma, reçu par le président Félix Tshisekedi lors des consultations menées du 2 au 25 novembre, l'avait invité à privilégier la stabilité politique pour attirer des investissements dans le pays. La RDC vit désormais dans l'attente des annonces M. Tshisekedi pour sortir de la crise au sein de la coalition au pouvoir.
Au Nigeria, Boko Haram a revendiqué mardi la tuerie de samedi contre des travailleurs agricoles dans le nord-est du pays qui a fait 76 morts. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Dans une vidéo, le groupe dirigé par Aboubakar Shekau affirme avoir tué des dizaines de villageois du district de Jéré près de Maïdougouri pour des motifs de vengeance. « Vous pensez que vous pouvez livrer nos frères aux mains des soldats et ensuite vivre en paix ?» a déclaré Aboubakar Shekau, sans mentionner à quel combattant il fait référence. Samedi, des dizaines de personnes qui travaillaient dans une rizière près de Zambarmari ont été égorgées. 43 corps ont été enterrés dimanche et 33 autres ont été enterrés lundi, a déclaré Babakoura Abba Jataou, le ministre local de l'information, ajoutant que les habitants du village de Zambarmari ont dit que beaucoup d'autres corps pourraient toujours se trouver dans la rizière. Les recherches étaient toujours en cours hier mardi et des équipes parcouraient les champs à pied et avec des tracteurs pour retrouver d'autres victimes. Le nord-est du Nigeria est en proie à une insurrection de Boko Haram depuis 2009. En 2016, le groupe s'est divisé en 2 factions. Celle d'Aboubakar Shekau et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Le conflit a fait près de 36 000 morts et plus de 2 millions de déplacés.
Ici aux États-Unis, le président élu Joe Biden a présenté mardi son équipe économique avec notamment la future secrétaire au Trésor, Janet Yellen, l'ancienne patronne de la Banque centrale. Abdourahman Dia.
Tant de gens ont du mal à mettre de la nourriture sur la table et à payer leurs factures et leurs loyers, a déclaré Janet Yellen lors d'un discours prononcé à Wilmington dans le Delaware, où elle a été présentée officiellement par le président élu Joe Biden. C'est une tragédie américaine. Il est urgent d'agir pour éviter que la récession ne s'auto-alimente et ne provoque encore plus de ravages, a ajouté l'ancienne présidente de la Banque centrale, qui doit encore être confirmée par le Sénat. Cette équipe est composée essentiellement de femmes et de personnes issues des minorités. Elle aura plus largement la délicate tâche de remettre sur les rails une économie qui a subi sa pire crise depuis celle de 1929 et qui peine à s'en relever. Depuis des mois, le président de la Fed, Jerome Powell, presse le Congrès de voter un nouveau plan de soutien économique prenant le relais de celui de 2200 milliards de dollars adopté en urgence fin mars. Auditionné devant le Sénat, il a souligné mardi que la première économie du monde avait encore de longs mois difficiles devant elle, malgré les avancées médicales sur les vaccins.
L'Amuniteco, John Linden.
La Côte d'Ivoire et le Ghana tiennent tête aux géants du chocolat. Le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire et le Ghana Cocoa Board, les organes de régulation des filières cacao de ces deux pays qui produisent les 2/3 du cacao mondial, reprochent aux grandes compagnies chocolatières américaines Hershey et Mash d'acheter du cacao ou du beurre de cacao sans payer le différentiel de revenus décent. Il s'agit d'une prime de 400 dollars par tonne de cacao en sus du prix du marché destiné à mieux rémunérer les planteurs de cacao dont beaucoup vivent dans la misère. L'État de Côte d'Ivoire, à travers son trésor public, a levé le 30 novembre 2020 auprès des investisseurs opérant sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine 202 milliards de francs CFA au terme de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor dénommé bon social COVID-19. Ces fonds devraient permettre de couvrir les décalages des trésoreries créés par la lutte contre la pandémie. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, revoit à la baisse sa prévision de croissance mondiale des 5 à 4,2% pour 2021. L'OCDE a également légèrement corrigé son estimation pour 2020, mais à la hausse. Le PIB mondial devrait finalement se contracter de 4,2% contre moins 4,5% selon ses prévisions antérieures.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les matchs de la 5e journée de la Ligue des Champions se poursuivent ce soir en Europe. Manchester United reçoit le Paris Saint-Germain. La Juventus Turin accueille le Dynamo Kiev. Ferencváros joue le FC Barcelone à domicile, tout comme le FC Séville face à Chelsea. La Lazio Rome se déplace en Allemagne pour y affronter le Borussia Dortmund. Le club Bruges accueille le Zénith Saint-Pétersbourg. Les Français de Rennes joueront les Russes de Krasnodar. Başakşehir accueille le RB Leipzig. Hier, Marseille a battu l'Olympiakos 2 buts à 1. Liverpool a fait le service minimum devant l'Ajax, battu 1-0. 0-0 entre le FC Porto et Manchester City. 3-2 pour l'Inter Milan face au Borussia Mönchengladbach. 1-1 entre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich. Le Shakhtar Donetsk a battu le Real Madrid 2 buts à 0. 3-1 pour Red Bull Salzbourg face aux locomotives de Moscou. Direction la République démocratique du Congo pour prendre des nouvelles du meilleur buteur du championnat chinois annoncé en Europe. L'international congolais Cédric Bakambu pourrait signer son comeback en Espagne. Dans une interview accordée à Valdo Simo Yamba Yamba à Kinshasa, Bakambu n'a pas caché ses envies de revenir en Europe, même s'il n'a pas fait mention de sa destination.
L'option d'un retour en Europe figure une fois de plus parmi les priorités du meilleur buteur du championnat chinois. 14 buts à son compteur cette saison. L'international congolais Cédric Bakambu en a fait mention il y a peu à Kinshasa.
Le retour en Europe, tout le monde l'attend. Et bon, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais c'est vrai que j'ai fait un bon bout de chemin jusqu'à là. Je suis fier de mon parcours. Cette saison, j'ai terminé meilleur buteur de la Chinese League. J'ai hâte de savoir ce que je vais proposer à l'avenir.
L'Europe, mieux, c'est en Espagne qu'il est annoncé d'ici janvier 2021. À en croire la presse espagnole, le Real Madrid serait sa destination. Mais l'attaquant congolais est encore sous contrat avec le Beijing Guoan.
On ne sait pas de quoi demain sera fait. Pour l'instant, je suis sous contrat. Il me reste un an de contrat. Et on verra si j'irai au bout ou pas.
Reste à savoir si cette fois-ci sera la bonne. Puisqu'en janvier 2020, Bakambu était prêt à signé à Barcelone, mais cela n'avait pas abouti. Kinshasa, Valdo Simo Yamba, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sibulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, trois leaders de l'opposition, Guy Brice Parfait-Kolela, Claudine Mounari et Pascal Sati-Mabiala, qui viennent de participer à la concertation politique de Madingou, ont appelé le président Denis Sassou Nguesso à trancher. La majorité présidentielle affirme qu'il y a eu consensus pour aller à l'élection présidentielle dans 3 mois, mais l'opposition dit qu'il n'y a jamais eu consensus. Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Les trois leaders de l'opposition sont revenus devant la presse pour déclarer que la concertation de Madingou n'a pas connu de consensus sur leur position et celle de la majorité au pouvoir. Pascal Sati-Mabiala, le chef des filles de l'opposition, a même soutenu qu'ils étaient prêts à accorder une rallonge de mandat à Denis Sassou Nguesso pour permettre une bonne organisation des élections.
Nous sommes partis, et c'est ce qu'il faut dire à tous qui nous écoutent. Nous sommes allés à Madimbou, nous avons dit dans un esprit de construction, et pour aboutir à un consensus. Mais tout ce que nous demandons, c'est que ce n'est pas possible dans les deux mois qui restent. Parce qu'on aurait pu dire, le 21 mars, date échue, la constitution, pas question, si l'élection n'est pas faite dans les meilleures conditions, nous allons soulever les populations, nous allons soulever nos militants. Ce n'est pas ça notre discours.
Face à la confusion qui règne actuellement sur le crédit des recommandations de Madingou, les opposants en appellent au chef de l'État lui-même, Claudine Munari, présidente de la Fédération de l'opposition congolaise.
Mais c'est un moment rituel que finalement, quand on regarde bien, apporte des petits plus. Et ce petit plus-là, nous pensons à rentrer à Madingou, la tenue des élections sera jugée crédible. Et donc, on n'a pas fait un voyage pour rien. C'est un voyage ici. La balle est dans le camp du président, ça dit de décider.
Mais quoi qu'il en soit, Guy Brice Parfait-Colela, arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, a reconnu que leur moisson à la concertation de Madingou avait été très chiche.
Chichement, on nous a jeté ça. Nous avons pris. Maintenant, est-ce que ça sera concrétisé dans les textes d'application? J'ose croire aussi. Sinon, pourquoi on nous avait appelé à Madingou?
Selon la Constitution, l'élection présidentielle devait avoir lieu en mars prochain et la majorité au pouvoir estime que la révision de la liste électorale demeure la seule opération qui rentre dans les délais. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Niger, les autorités préparent une politique de sécurité nationale pour faire face aux différents défis auxquels le pays est confronté. Dans le cadre de la préparation de ce document de référence, une rencontre d'informations sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité se tient depuis ce mardi à Niamey. Précision de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
La rencontre qui regroupe des jeunes leaders civils et militaires a pour but de leur permettre d'avoir une meilleure connaissance du monde de la sécurité et de la justice, mieux appréhender les principes fondamentaux de la gouvernance démocratique et de mesurer tous les enjeux de la transformation du secteur de la sécurité. Elle est organisée par le Centre national d'études stratégiques et de sécurité du Niger et le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité DECAF, Morane Joly-Routes et la coordinatrice subsaharienne division opération de DECAF.
Depuis la signature de la convention de partenariat qui lie nos deux institutions, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre. L'atelier sur la gouvernance sécuritaire et le rôle des jeunes leaders rentre donc dans le cadre de ce partenariat. Il s'inscrit parfaitement, d'une part, dans le cadre de politique de la réforme du secteur de la sécurité et de la gouvernance de la CDAO, adoptée en juin 2016 par les États membres de la CDAO. Et il cadre bien avec la volonté politique affichée par les plus hautes autorités de ce pays d'inscrire la gouvernance du secteur de la sécurité comme une priorité au regard de la situation sécuritaire régionale.
La rencontre est aussi inscrite dans la série de réflexions que mène le Centre national d'études stratégiques et de sécurité qui a la charge d'élaborer la politique de sécurité nationale du Niger. Docteur Abdulazizou Garba, directeur adjoint du CNES.
Il s'agit pour le CNES de réaliser des formations pour redynamiser les capacités institutionnelles et opérationnelles de l'État et celles de ses ressources humaines engagées dans la prévention et la gestion des crises et conflits. Tout un programme est dédié à ces formations. En priorité, les formations du CNES ciblent les cadres du secteur de la sécurité. Mais au regard de l'importance du besoin, celles-ci sont désormais élargies aux acteurs de la société civile.
Le principal partenaire de ces deux structures est la République fédérale d'Allemagne. Son ambassadeur au Niger, c'est à l'ouverture de l'atelier adressé aux jeunes leaders cibles de l'activité.
La sécurité est l'affaire de chacun. La gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité intéressent tous citoyens. Elle est un processus inclusif et collaboratif. Si vous doutiez encore de l'importance de votre engagement, je vous rappellerai que dans la dynamique actuelle de développement national, le Niger engage de plus en plus sa jeunesse dans les débats autour des préoccupations quotidiennes des citoyens, dont la paix et la sécurité.
Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Bénin, le gouvernement envisage d'intégrer la médecine traditionnelle dans le système des soins de santé et d'en faire une pratique médicale reconnue. Selon les spécialistes, il faut assainir le secteur pour donner de la place aux personnes qui maîtrisent cette pratique et exclure les potentiels charlatans. Reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Les Béninois accordent une importance capitale à la médecine traditionnelle. La consommation des plantes, des écorces et racines a plus de bienfaits que les médicaments. C'est ce que pensent certains qui ne jurent que par la guérison traditionnelle. Quelques personnes rencontrées devant une vendeuse de plantes et autres infusions s'expliquent.
Comme quand le design là, c'est bon, non ? Ça traite bien le corps, ça donne bien la forme, ça arrange le corps bien. Même si ne donne pas le malade, ça te plaît, si tu peux prendre.
Oui, j'en consomme. Je préfère prendre la tisane que d'aller dans les pharmacies, de prendre les produits pharmaceutiques. C'est plus naturel. La fatigue, le palud, des coups battus. Oui, je me sens à l'aise.
Souvent, moi, j'aime les tisanes, puisque c'est naturel. Ça rentre directement dans le sang. L'effet, c'est instantané.
Quand je sens le palud, je les prends. Et pour ceux des racines mélangées à la boisson alcoolisée, quand j'ai des maux de ventre, je le prends. Oui, je me retrouve.
Depuis 2001, le Bénin a décidé de donner une chance à la médecine traditionnelle afin qu'elle fasse ses preuves. Les professionnels du secteur sous la direction du gouvernement et de l'OMS se rencontrent chaque 12 juin pour la célébration de la journée nationale de la médecine traditionnelle. Pour les guérisseurs, le temps est venu pour qu'ils prennent leur place dans le développement national. Roch Rouyen est le coordonnateur du programme national de la pharmacopée.
Une journée que nous célébrons tous les ans pour faire le plaidoyer, pour rappeler que la médecine traditionnelle, c'est 80% de la population qui a recours, pour rappeler que les guérisseurs traditionnels sont à l'avant-garde des épidémies. Donc c'est une journée pour rappeler le force. Au Bénin, le ratio, c'est un guérisseur pour 800 habitants, alors que nous avons un médecin pour près de 8000 habitants.
L'objectif est de répertorier tous ceux qui se réclament de cette branche afin de les aider à proposer des remèdes et recettes qui sauvent. Christian Chaffa, le représentant du ministre de la Santé à la dernière célébration de la Journée nationale de la médecine traditionnelle, a été très clair sur la question.
Le besoin de tirer parti des expériences acquises en médecine traditionnelle est bien perçu par le gouvernement béninois. Mais les efforts restent à fournir pour assurer l'intégration de cette médecine point de vue de l'offre de soins, de l'éducation, de la formation et de la réglementation. L'accent devra être également mis sur les mesures à prendre pour garantir la qualité, l'efficacité et l'innocuité des médicaments à base de nos plantes.
Les acteurs de la médecine traditionnelle pensent pour leur part qu'ils ont les compétences nécessaires mais que l'État doit investir afin de les aider à être à la taille de leur potentialité.
Il faut accompagner les guérisseurs. Et ça, il faut vraiment davantage investir dans la médecine traditionnelle. Accompagner les guérisseurs pour réaliser les essais cliniques, pour suivre toutes les étapes. Parce que nous avons un document, un cadre réglementaire bien établi aujourd'hui au Bénin. Nous avons besoin davantage de ressources pour accompagner les guérisseurs dans ce processus. C'est immense ce qu'ils peuvent faire.
Au moins, on est arrivé à enrichir aujourd'hui au Bénin des médicaments issus des plantes mis sur la liste des médicaments au Bénin et distribués dans les officines et prescrits par les médecins. C'est déjà un grand pas.
La médecine traditionnelle au Bénin est pluriel et embrasse toutes les branches de la médecine moderne en dehors de la chirurgie. Du nord au sud, on y rencontre des hommes et des femmes pour qui guérir par les plantes est un don ou un héritage légué de génération en génération. Vous avez toutes les chances de guérir avec ce type de médecin traditionnel, mais le hic serait de tomber sur l'autre revers de la médaille. De Cotonou, Ginette Fleur, dans les Pouvoirs Africains.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le président élu Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont annoncé les premiers noms de leur équipe de conseillers économiques qui fait la part belle aux femmes et aux minorités ici aux États-Unis. Claire Morin-Gibourg a contacté ici à Washington l'expert en économie Jean-François Seznec.
C'est quelque chose que le Parti démocrate vraiment poussait depuis très longtemps et je pense qu'ils ont monté une équipe assez assez formidable en fait, surtout dirigée par Madame Yellen qui est très bien considérée par tout le monde des deux côtés. Donc elle a une très grande expérience et je pense qu'elle va en fait diriger un peu le développement économique des États-Unis et on va voir comment ça va se passer, mais je pense que effectivement elle aura beaucoup de succès à obtenir ce qu'elle veut du Congrès des États-Unis parce qu'elle est bien perçue des deux parties. Donc je pense qu'effectivement ça peut très bien marcher.
Est-ce que vous avez été d'une certaine façon surpris puisqu'il y a plusieurs femmes qui ont été nommées, plusieurs femmes de couleur, c'est quand même un changement important.
Oui, c'est un changement important et c'est surtout un changement qui est fait bien sûr pour que Biden, le président élu, Biden et sa vice-présidente élue puissent satisfaire un peu l'aile gauche du Parti démocrate parce qu'ils en ont besoin pour les votes au Congrès, mais il ne faut pas se faire d'illusions, le changement économique ne va pas vraiment être énorme parce que les intérêts des États-Unis sont les mêmes un petit peu sous Trump que sous Biden. Donc tout ce qui concerne les relations avec la Chine, les relations avec l'Europe et avec l'économie de l'Europe, ça ne va pas vraiment changer grand-chose. Ce qui va beaucoup changer, c'est le ton avec lequel c'est fait. Et je pense que ça, en soi-même, c'est important parce que ça peut faciliter, si vous voulez, les négociations et la diplomatie, surtout du point de vue économique.
Quels sont les premiers défis qui attendent cette équipe de conseillers économiques, selon vous ?
Oh, certainement quelle va être la politique avec la Chine et avec les compagnies chinoises, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile en ce moment aux États-Unis. Le déficit commercial est encore énorme et il va falloir qu'ils s'occupent de ça et tout de suite. Il n'y a pas vraiment... Et la Chine elle-même, je pense, veut que ce soit un sujet qui soit vu tout de suite, qui soit mis vraiment au devant de toutes les autres négociations possibles au point de vue international en tous les cas.
Jean-François Seznec, chercheur pour Atlantic Council et le Middle East Institute.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace out. Only thing I need to know is if you open up. I'm talking slick back, take back, gang.
pour cette édition matinale. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.